franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 9h11, tout de suite à Interception, le magazine de reportage de la rédaction présenté par Pascal Dervieux.
Bonjour. La Syrie vient d'entrer dans sa cinquième année de guerre. Bachar el-Assad a déjoué tous les pronostics. Il est toujours aux commandes du pays, ou du moins d'une partie du pays, car la Syrie est aujourd'hui déchirée en une multitude de fronts militaires. La guerre a commencé dans les rues de Damas par une contestation du régime de fer de Bachar el-Assad, puis la vague de répression féroce qui a suivi. Au début, face au pouvoir, des forces hétéroclites se sont rassemblées. L'armée syrienne libre, composée notamment de militaires en rupture de ban avec le régime, et puis des mouvements situés à des degrés divers sur l'échelle de l'islamisme. Au fil du temps, l'armée syrienne libre s'est perdue dans le sable des querelles intestines. Un mouvement a pris l'ascendant, c'est Daesh, l'organisation de l'État islamique, dont la cruauté n'a cessé d'ensanglanter le terrain et les écrans du monde entier. En 4 ans, le conflit a déjà fait plus de 200 000 morts. Aujourd'hui, on estime que 4 millions de Syriens ont fui leur pays. 8 millions vivent déplacés à l'intérieur des frontières. Pour Interception, Christian Chéneau et Gilles Gallinaro ont pu passer quelques jours à Damas. La capitale n'est prise pour cible que très épisodiquement par les forces anti-régime. Et le visiteur qui débarque dans cette ville en trompe-l'œil peut douter, un temps du moins, d'être dans la capitale d'un pays en guerre. Damas, la vie entre deux obus.
Interception, le magazine de la rédaction.
C'est dans la partie ouest de Damas.
Et là, on aperçoit le palais présidentiel.
Il y a le palais présidentiel qui domine le lycée. Il y a pas mal d'élèves qui habitent à Mazé. Ici, on est dans la partie populaire de Mazé. Le quartier, ici, est un quartier, celui qui fait face au lycée, plutôt à dominante sunnite. Mais à Damas, il n'y a jamais de quartier uniformément d'une confession ou d'une autre. Mais c'est plutôt de tendance sunnite et c'est un quartier populaire.
Michel Leprêtre est le proviseur du lycée français Charles de Gaulle de Damas.
Alors là, pour se rendre au lycée, les distances ne sont pas énormes, mais aujourd'hui, la sécurité ayant placé pas mal de barrages, et ça crée des embouteillages, et c'est toujours un souci de venir au lycée à l'heure. Mais beaucoup y arrivent.
Donc là, finalement, la population du lycée, c'est une population socialement mixte?
C'est plutôt des hommes d'affaires, hauts fonctionnaires, diplomates, commerçants, artistes, professeurs d'université, plutôt des populations liées aux milieux favorisés.
Je suis Sarah Sidawi, une étudiante au lycée français de Damas et je suis actuellement en classe de terminale.
C'est-à-dire que vous passez votre bac à la fin de l'année ?
Oui.
Bac en français ?
Bac français.
Pourquoi vous avez choisi de venir au lycée français ?
Parce que la culture française, elle est très vaste et c'est l'une des cultures qui sont les plus répandues dans le monde. Elle est la culture anglaise. Et pour moi et pour mes parents, on considère que le français et la culture française en général, c'est quelque chose de très très intéressant.
Est-ce que c'est facile d'être étudiante ici, à Damas ?
Écoutez, malgré toutes les situations qui règnent dans le pays, lorsqu'on vient ici, on est dans un monde qui est totalement différent. On ne ressent pas le stress qui est dans la guerre, parce qu'on est entre amis. Et cette guerre, elle nous a plus unis. Par exemple, maintenant, chaque personne, elle connaît l'ensemble des personnes qui sont dans le lycée français. Et donc, je trouve que, certes, il y a eu des bombardements, certes, il y a des obus, mais non.
Vous voulez dire qu'il y a une sorte de solidarité presque familiale ici ?
Oui. On s'entraide.
Mais est-ce qu'on peut être un étudiant normal en 2015 ici à Damas ?
Oui. Mais non. C'est... Par exemple, il y avait des fois des bombardements, on est venu. Et on a assisté à des cours, malgré les dangers, oui.
Et vous voyez votre futur en Syrie ou à l'étranger ?
Je ne peux pas vous répondre maintenant, mais je crois que ce sera en Syrie. Parce qu'on est né ici, on vit ici et on va développer ce pays. Et si l'ensemble de la population, elle part, le pays va mourir.
Alors, je m'appelle Rania Zenedine, je suis franco-syrienne et puis mais j'ai 3 enfants à l'école française de Damas.
Psychologiquement, c'est dur pour les enfants ?
Bien sûr que c'est dur. On a les enfants dans une atmosphère de guerre. On essaye de les amener tous les jours à l'école. On essaye de les protéger et on ne contrôle pas tout après tout, mais il faut que les enfants continuent leur éducation et que la vie continue.
Mais vous sentez quand même que la situation s'améliore à Damas ?
Là, depuis quelques semaines, oui. Depuis 2-3 semaines, on n'a pas des obus.
Oui, parce qu'il y a eu des obus en janvier.
Il y a 3 semaines, on a eu des menaces. Et, à 7h30, à l'heure où les enfants vont à l'école, on a reçu 160 obus en même temps. On les a entendus, les enfants ont entendu. C'était vraiment dur pour les enfants.
Et vous sentez quand même que les gens en ont ras-le-bol un peu de cette guerre ?
C'est normal, ça fait 4 ans. C'est une guerre que les gens n'ont pas choisie. On est obligé de vivre cette guerre. Les gens, ils ne veulent pas. Ils ne contrôlent pas du tout ce qui se passe. Et puis, c'est dur au quotidien quand on n'a pas d'électricité, pas du fioul. Comme partout, quand il y a la guerre, il y a des riches de guerre. Il y a des gens qui font profit. Et tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est médicaments, il y a les prix qui augmentent. Il y a tant de médecins qui sont partis, on a tant de... Il y a beaucoup de gens qui sont partis.
Et... Le pays s'est vidé un peu de sa substance.
Ah oui, ça c'est vraiment dur. On va passer des années à remplir vraiment, à combler ce trou. Et je ne sais pas si on sera capable d'un jour revenir comme avant. Parce que vraiment, maintenant, on est vraiment dans une petite... on est obligé de vivre dans une coquille.
Merci.
Merci à vous.
L'ambassade ferme en 2012. Vous, est-ce que vous vous êtes senti menacé ici ? Est-ce qu'il y a eu des bombardements de lycée ? Vous avez eu peur ici quand même ?
Alors, ici en Syrie, en tant que Français, on est parfaitement accepté. Vraiment, on se sent à l'aise ici. Et durant les périodes où je sens que c'est dangereux, parce qu'il y a quand même des bombardements aléatoires de temps à autre, évidemment, je ne sors pas.
Parce qu'en janvier, par exemple, il y a eu des tirs de missiles des rebelles et une contre-offensive du gouvernement sur les quartiers rebelles.
Alors, bon, on n'est pas dans les quartiers rebelles, donc la contre-offensive, on entendait les impacts, parce que c'est pas si loin que ça. Et avant les impacts, les départs, mais il y a eu certains jours plusieurs dizaines d'obus qui sont tombés sur Damas, alors sur une surface très vaste.
Parce que là, le lycée français Charles de Gaulle est situé juste en contrebas du palais présidentiel. Oui. Vous n'avez pas eu peur d'être une cible ?
Alors, oui, parce que les artilleurs qui tirent dans la région ne sont pas toujours d'une très grande précision. Il faut savoir qu'à côté de nous, il y a aussi la colline du Jabal Mazeh, entièrement peuplée par des Alaouites des classes moyennes inférieures et des classes populaires, qui sont souvent l'objet de tirs. Et donc nous, on est entre les deux. Et donc, on peut être victime d'erreurs de cible, ce qui a été le cas 2 fois, le premier en décembre 2013 et en avril de l'année dernière, où un obus de mortier s'est planté dans une de nos cheminées, qui aurait pu faire des dégâts humains considérables si les élèves avaient été en récréation.
Pour les élèves, les professeurs, c'est quand même pas facile à vivre, quand même.
Alors je crois que c'est pour celui qui viendrait de France et débarquerait inopinément ici, ce serait le sujet de surprise que de constater que l'impact des événements dans la vie quotidienne sur les personnes est beaucoup moins grand que ce que l'on peut imaginer. D'abord parce qu'il y a l'habitude. Ensuite, probablement parce que les gens se rendent compte que à ne pas en parler sans cesse, à ne pas se monter la tête avec ça en permanence, on se préserve des dérives psychologiques qui pourraient conduire à des dépressions ou à des découragements. Parce qu'il y avait des combats, il faut savoir qu'à certains moments, il y avait des combats à 800 mètres d'ici. Cela dit, on était beaucoup plus tranquille qu'on l'était ces derniers temps, parce que c'était des combats qui avaient lieu à un endroit. Et on n'était pas encore dans cette guerre psychologique qui consiste à envoyer de manière aléatoire des obus sur des quartiers pour essayer de déstabiliser les gens.
Ce qui est le cas maintenant.
Deux mots sur la vie quotidienne quand même. Il y a une inflation qui est très 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 forte. Comment est-ce que vous pourriez décrire un petit peu, finalement, c'est quand même pas non plus facile.
Alors, pour ce qui est de l'approvisionnement, dans les quartiers où nous sommes, qui sont contrôlés par les forces loyales, moi je n'ai noté quasiment aucun manque, hein. Si je veux du fromage français, je sais où le trouver. Ce que je note, c'est que pas mal de commerçants des quartiers qui ont été occupés ou qui sont encore occupés par l'opposition ou mal repris en main, certains de ces commerçants viennent avec leur stock et vendent sur les trottoirs. Hein. C'est assez dramatique de voir ces commerçants qui ont pu être à un certain moment établis, obligés de vendre des fonds de stock sur le trottoir.
C'est quoi l'état d'esprit des Damascènes? Ils ont quand même un peu ras-le-bol de tout ça?
Alors, je me dis souvent que, au régime que connaissent les Syriens actuellement, les Français ne tiendraient pas plus de quelques semaines. Et donc, les gens ne font pas volontiers part de leur accablement, mais on sent malgré tout une lassitude.
Ça va? Vous attendez quelqu'un?
J'attends.
La maman de là qui va venir à 8h. Je suis venue exprès pour parce que moi j'arrive. Vous connaissez le problème, bonjour.
C'est...
Elle va changer de classe.
Mais non, elle veut changer de classe.
Oui. Mais c'est important pour la fille. Parce qu'elle prend un traitement anti-convulsion.
Anti-quoi?
Convulsion.
Je suis docteur Balkis Akki, pédiatre. J'exerce en privé. J'ai un cabinet au centre de Damas. Et j'ai mes clients.
Là, on est à Damas aujourd'hui en 2015. Il y a une crise qui a débuté en 2011. Sur le plan de la santé, j'allais dire générale, il y a une dégradation, j'imagine, terrible ici.
C'est-à-dire qu'on a beaucoup de problèmes de santé. Il y a beaucoup de maladies qu'on ne voyait plus et qui ont réapparu dû au manque de vaccination.
Alors justement, quel type de maladies reviennent malheureusement aujourd'hui en Syrie?
C'est-à-dire, on a parlé beaucoup de polio. Le polio, la poliomyélite, a été vraiment un problème majeur.
On va revenir sur toutes les autres maladies.
C'est l'hépatite A qui est très répandue maintenant. L'hépatite A, et malheureusement, la vaccination est assez chère pour le citoyen syrien. Il ne peut plus acheter. Dans des centres médicaux, on ne procure pas la vaccination de l'hépatite A.
Parce que c'est trop cher?
C'est trop cher, oui.
C'est-à-dire que là, les gens ne peuvent plus suivre leur traitement pour le diabète, le cancer ou d'autres maladies, et donc se débrouillent par eux-mêmes, soit par des amis,
soit ne se soignent pas. Soit par des amis, soit par des gens qui leur donnent de l'argent, s'ils sont très pauvres, soit par eux-mêmes, ils achètent ces traitements, mais ils se procurent ces médicaments de l'étranger. Il y a un marché noir, malheureusement. Il y a un marché noir de vaccination, un marché noir de traitement, de ces traitements lourds, de ces traitements qui... Et l'embargo a empêché beaucoup de gens qui avaient besoin de ces médicaments qui étaient donnés par le ministère de la Santé gratuitement, empêcher que ces médicaments arrivent en Syrie, ce qui fait que les gens ont dû aller acheter ailleurs des médicaments, soit du Liban, soit de la Jordanie, soit de la Turquie, soit à des prix inconcevables, vous voyez.
Ça, c'est pour les maladies graves, donc pas de médicaments. Et psychologiquement aussi, est-ce que les gens font une consommation, j'imagine, de tranquillisants ?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils consomment beaucoup de tranquillisants. Et on dit qu'il y a une consommation terrible de tranquillisants parce que les gens ont besoin de ça. On donne maintenant les tranquillisants surtout aux cardiaques, aux gens qui ont des problèmes psychologiques. Même il y a des dépressions. Enfin, surtout chez les jeunes, la jeune génération, les jeunes hommes, les jeunes filles qui voient qu'il n'y a plus d'avenir pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans un pays en guerre? Alors, ils sont vraiment très déprimés, en dépression. Ils vont, par exemple, à l'université, il y a des obus, ils ont peur des obus. Et puis, quand ils ont leur diplôme, il n'y a plus de d'issue, il n'y a plus de travail, ils ne peuvent plus aller à l'étranger, il n'y a plus de visa, faire des études plus avancées.
C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'enfermement ici.
Oui, oui. On sent qu'on est enfermé dans un grand prison.
Depuis 2011, la Syrie a fait un bond en arrière de 30 ans sur le plan économique. La guerre et les sanctions internationales pèsent lourd. Certes, il n'y a pas d'embargo sur les médicaments, mais leur importation est de plus en plus compliquée, témoigne ce représentant de l'industrie pharmaceutique qui a choisi de rester anonyme.
Malheureusement, vu que nous représentons des sociétés européennes principalement, nous avons beaucoup de difficultés à travailler avec ces sociétés, surtout quand nous parlons de questions de finances. Quand je dis finances, ce sont les transferts que nous devons leur faire et tout. Maintenant, il y a des sociétés avec qui on a été complètement bloqués à cause de la situation et de l'embargo contre la Syrie. Et on a dû faire un peu de gymnastique à travailler avec eux, avec leurs usines dans d'autres pays européens qui acceptent des transferts via la Syrie.
Comment vous faites payer? Parce qu'en ce moment, il n'y a plus de transactions financières entre la Syrie et l'extérieur. Donc, comment ça se passe?
Il y a des transactions, mais c'est en train de se serrer de plus en plus et ça devient plus difficile. Maintenant, il y a des transferts qui sortent à partir de la Syrie vers l'Europe. Tout dépend des banques avec lesquelles vous travaillez. Parce que les banques, vous savez que les banques ne travaillent pas directement de banque à banque. Ils doivent traverser par un correspondant. Et actuellement, bon, la plupart des banques syriennes ont leur correspondant qui est la Commerzbank en Allemagne. Et jusqu'à présent, la Commerzbank est en train d'accepter les transferts, mais des transferts officiels avec tous les documents nécessaires pour prouver comme quoi bon, la marchandise a été importée légalement et tout, etc. Mais il y a d'autres banques qui traversent par des correspondants dans les pays arabes, surtout dans les pays du Golfe comme Dubaï. Alors là, ça devient plus difficile aussi. Les banques ont peur, et surtout avec... Bon, vous savez que toutes les banques en Europe, même au Liban ou en Syrie, à cause du blanchiment d'argent et tout, ils sont en train aussi de serrer trop la ceinture, et le travail devient de plus en plus difficile à cause de ça.
Deux mots sur la situation de l'industrie pharmaceutique ici. Vous importez, mais il y avait aussi une production locale. Où on en est?
Bon, pour la production locale, malheureusement, il y a beaucoup d'usines en Syrie qui ont été détruites à cause de la guerre. Surtout quand nous parlons des régions du nord de la Syrie, comme Alep, vous avez aussi Homs et toutes ces régions. Maintenant, les industries sont vraiment très restreintes et elles travaillent à un niveau vraiment au point mort, si vous voulez. Et ensuite, il ne faut pas oublier que la plupart des industries qui travaillaient pour des sociétés étrangères, type comme Roche, AstraZeneca, tous ces gros noms qui existent dans le monde pharmaceutique, aussi, ces sociétés ont serré la ceinture avec toutes ces boîtes. Et ils n'arrivent plus à produire comme avant.
Ça veut dire que là, vous nous expliquez, il y a moins de production locale, des difficultés à importer. Donc ça veut dire qu'il y a des pénuries de médicaments ici ?
Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de pénuries de médicaments, surtout les médicaments importés. Ensuite, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dernièrement, la Syrie a pris une décision de travailler aussi avec les pays amis, type Iran, Russie, la Chine. Ils sont en train d'essayer d'importer des médicaments équivalents aux médicaments européens, mais qui ne sont pas de la même qualité. Les produits de cancer, on ne peut pas jouer avec.
Pour les traitements lourds, cancer, diabète, hépatite, etc., là, c'est grave pour la santé publique ici en Syrie.
Exactement. On a beaucoup de cas et même il y a beaucoup de médicaments qui manquent au ministère de la Santé. Et les gens sont en train d'essayer d'acheter à partir du Liban ça, ce qu'on appelle une importation illégale. Mais en fin de compte, je ne peux pas considérer que c'est une importation illégale parce que si j'ai le cancer et j'ai besoin de ce médicament, je vais l'acheter n'importe où dans le monde pour pouvoir me soigner.
À une quinzaine de kilomètres au sud de Damas, sur la route qui mène à la frontière jordanienne, une zone industrielle a été épargnée par les violences. C'est là que nous avons rendez-vous avec Mohanna Daadouch, le numéro 1 de la lingerie féminine en Syrie.
Là, c'est la partie emballage. Mais on va commencer par là et puis faire le tour.
Avec son épouse Rania, qui dessine les nouvelles collections, Mohanna Daadouch se débat pour faire tourner son usine au milieu d'un océan de difficultés.
Là, il y a combien d'ouvrières qui travaillent à peu près ?
Dans l'usine ?
Oui.
On est 200, presque.
Et avant la crise, combien d'ouvrières ?
On avait plus. Vous allez voir, on a plein de machines vides, vous allez voir. Parce qu'on a perdu... les gens, ils ont perdu leur maison. Forcément, ils sont partis dans leur ville d'origine, parce qu'ils n'ont plus de maison ici. Vous voyez les points, là ? Normalement, c'est des machines qu'il faut avoir au milieu. Pour chaque point, c'est un point de...
Donc ça, c'est des machines qui ont été démontées ?
Oui.
Parce qu'il n'y avait pas d'ouvrières ?
Oui, on n'a pas d'ouvrières pour le moment.
Et votre matière première, elle vient d'où ?
On commence avec le fil. Normalement, on commençait avec le fil syrien, le coton syrien, mais maintenant, on n'a plus.
Donc il vient d'où, alors ?
Maintenant, il y a des accords entre Soudan et la Syrie où on a le droit d'acheter, de faire des échanges commerciaux.
Et là, c'est des femmes de la région, hein ?
Oui, oui, c'est des Syriens. Et puis surtout des Syriens.
Bon, on a rencontré votre épouse au lycée français.
Oui.
On a discuté un petit peu, puis il y a une belle usine à visiter.
Et vous avez discuté avec elle un petit peu.
Parce
que normalement,
elle ne parle pas. Hein.
Non, mais c'est bien. Non, mais formidable votre usine là. C'est quand même courageux de maintenir une usine dans les conditions actuelles.
On a cette usine depuis 15 ans.
Ouais.
On a beaucoup, beaucoup de problèmes à cause de la crise, à cause de la punition de l'États-Unis et l'Europe
l'embargo.
Qui fait l'embargo sur les. Peuple syrien, parce que vous ne pensez pas que le gouvernement a de problèmes d'avoir l'électricité, le gasoline. L'embargo, c'est contre le peuple syrien.
Et vous, vous avez l'électricité ici ?
Non. Depuis 7 mois, on n'a pas l'électricité.
Alors vous faites comment ?
Gasoline, le générateur. Chaque mois, je paye gasoline, le même montant qu'un an et demi d'électricité.
Et comment vous faites pour obtenir les produits de base, les tissus
Pour le coton, vous savez que Syrie plante le coton. Jusqu'à il y a 6-7 mois, on n'a pas de problème. Parce que le deuxième part a volé le coton syrien et a vendu le coton syrien à Turquie.
C'est-à-dire que c'est les rebelles.
Les rebelles. Alors depuis 7 mois, on commence à importer le coton fil.
D'où ça? De quel pays?
L'Inde.
Et alors, qu'est-ce que vous produisez ici? Et pour quel marché? Le marché local?
Non. Avant la crise, 60% de mon production pour l'Europe, 30% pour les pays arabes, 10% pour local. Nous avons 22 boutiques. En Syrie, 16. J'ai 2 boutiques à Jordanie. J'ai 2 boutiques en Erbil, en Irak. Et je suis ouvert une boutique à Caire, il y a 2 mois.
Et aujourd'hui, donc, votre production, elle va où alors?
En Europe, le pourcentage diminué de 60%.
Comment vous exportez votre production ici?
Pour les pays de Golfe, Jordanie, par camion, au sud de la Syrie, mais on a 100 km de plus. Ça coûte beaucoup plus d'argent. Pour Liban, vous passez en Syrie de Liban, vous voyez que les directions, c'est normal, aucun problème. Pour l'Europe ou les pays arabes, par avion ou par mer.
Est-ce que ça fonctionne encore, les avions, l'aéroport?
L'aéroport est ouvert, il n'a pas fermé du tout. Mais même moi, j'ai utilisé avec ma femme l'aéroport de Damas dans les derniers 3 mois, peut-être 6 fois. Aucun problème. Mais le problème, c'est de l'Europe, je répète. Ils ne laissent pas les avions de venir en Syrie. Il y a un embargo de plusieurs pays arabes et des Européens de laisser les avions de venir ici. Et en plus, les Européens ne laissent pas les avions syriens entrer en Europe. Alors, pour envoyer les marchandises par avion, on envoie les marchandises à l'aéroport de Damas. Il y a chaque jour des camions qui prennent la marchandise de l'aéroport de Damas à l'aéroport de Beyrouth. Et on envoyait les marchandises par l'aéroport de Beyrouth. On paye plus pour envoyer. Et par mer de Latakia, la direction entre Damas et Latakia, c'est toujours ouvert. Damas, Homs, Tartus, Latakia, aucun problème.
Et là, vous produisez combien de pièces de tissu, combien de vêtements?
À peu près 1500 pièces par jour. Mais avant la crise, on est arrivé de 3000 pièces par jour.
Et pour vos ouvriers, vos ouvrières, c'est facile pour elles de venir travailler? Il n'y a pas des problèmes, des barrages, de la sécurité?
Non. Aux derniers 6 mois de 2011 et à 2012, on a des problèmes chaque jour. Mais c'est fini, à peu près, c'est fini au fin de 2013. Alors 2014 passe et jusqu'à maintenant, on n'a pas ce problème parce que les régions qui ont des problèmes sont isolées.
C'est très localisé.
On n'a pas des ouvriers là-bas, alors on a oublié cette région. Depuis un an et demi, c'est stabilisé. Et les régions qui n'ont pas bien, ils sont isolés. Et les régions qui sont bien, ils vivent comme normal. Vous êtes là depuis 3 jours. Vous voyez que la vie est presque normale. Mais les gens souffrent. Les gens souffrent, les ouvriers souffrent, les gens, les peuples souffrent.
On va aller continuer la visite de l'usine?
Yeah. Nano? Rania? Allô? Allô? À quoi? On fait le 15. iPad. Vous voyez que c'est le showroom? On a laissé maintenant les chantons dessous parce qu'on n'a pas de clients qui viennent nous visiter à l'usine. Chaque semaine, on fait un nettoyage. Mais pour moi, je n'ai pas monté à cette showroom depuis 3 ans.
Et avec l'Internet, vous continuez à...
L'Internet, le voyage, les catalogues, très difficile. Très difficile de contacter les gens.
La Syrie fait peur.
Oui, c'est vrai.
Thank you.
En cette période de carême, les églises de Damas sont pleines à craquer. Ce soir, à la paroisse Saint-Cyril, de rite grec-catholique, c'est le patriarche de la communauté, Mgr Laham, qui officie pour la cérémonie. Dans cette période troublée, les chrétiens serrent les rangs autour de leur leader religieux. Les croyants ici, les chrétiens, ils sont désemparés, ils veulent rester, ils veulent partir, ils se posent des questions?
Bien sûr, ils se posent des questions, ils ont peur, beaucoup partent, bien sûr, relativement, mais par rapport à notre petit groupe, c'est déjà beaucoup. Vous voyez, c'est vraiment une hémorragie. Il n'y a pas de solution militaire. Solution militaire, c'est à la mort comme à la mort, à la guerre comme à la guerre, c'est tout. Donc, qui en souffre? Ce n'est pas le gouvernement, c'est nous, le peuple, le petit peuple. Et le maillon est le plus faible qui est les chrétiens. C'est pas parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes un petit groupe, alors nous souffrons plus. À chaque jour, nous voyons des gens qui partent. Nos gens sont esquintés, sont vraiment essoufflés, ils sont exsangues à cause de la situation. Et nous souffrons tous. Nous avons à faire face au problème des déplacés qui viennent chez nous, et nous avons encore à faire face aux pauvres de tous les jours que nous voyons toujours devant nous.
Alors qu'est-ce que vous leur dites?
Bien, nous les aidons. 6 à 8 000 familles que nous aidons, qui sont des gens déplacés. Et nous devons assurer par mois dans les 40 à 50 000 dollars par mois pour aider une aide la plus simple, un peu d'habits, un peu de nourriture pour les enfants, pour l'école, pour un peu de loyer, une petite opération, des médicaments, etc. Mais c'est rien. Chauffer les gens, un peu de mazout, un peu, c'est tout. Mais c'est rien, ça ne répond pas aux besoins de nos gens. C'est beaucoup plus que nous. La tragédie est tellement grande. On s'étonne qu'il y a encore des fêtes, qu'il y a des gens qui se marient, il y a des gens qui font des enfants, des gens qui construisent, des gens qui réparent leur maison. Et maintenant, nous, comme pasteurs, en travaillant de tous nos efforts pour vraiment œuvrer pour la paix, pour la réconciliation en Syrie, nous œuvrons pour tout le Moyen-Orient. Le salut du Moyen-Orient, l'avenir de la démocratie, de la liberté religieuse, de la liberté de conscience, des citoyennetés, toutes ces valeurs sont concentrées dans le problème de la Syrie. Donnez-moi une Syrie qui a vraiment une solution bonne internationale, vous sauvez tout le monde arabe. Et si on ne réussit pas à avoir une convivialité chrétienne musulmane, si on ne laisse pas les gens vivre ensemble ici, vous allez avoir le plus grand danger pour vous. Vous avez besoin de plus en plus des musulmans. L'islamophobie, c'est vous qui l'avez faite, ce n'est pas nous. Si nous, on n'a pas d'islamophobie chez nous, pourquoi? Nous vivons en minorité, ce n'est pas le mot, mais en petit nombre de chrétiens, et nous ne sentons pas qu'il y a une haine contre les musulmans. Pourquoi il y a une haine contre les musulmans chez vous? C'est parce que vous avez mis la haine dans le cœur des gens. Si nous réussissons à vivre chrétiens et musulmans ici, et ensemble, comme on a fait, vous allez avoir un très bon climat de présence musulmane en Europe. Nous, on n'a jamais fait une guerre chrétienne et musulmane. Il y a eu des problèmes. Sur les chrétiens, on les a tués parfois, mais il n'y a pas eu une guerre musulmane-chrétienne ici, en Terre Sainte. Jamais. Jamais il n'y a eu. Laissez-nous vivre ensemble, c'est la meilleure protection. Aidez-nous à rester ensemble. Ne nous divisez pas. Ne divisez pas les Arabes. Diviser les Arabes, cela veut dire mettre la guerre dans le cœur et la haine dans le cœur des gens contre les autres.
Vous pensez que ce n'est pas le rôle des Européens, des Occidentaux, de s'attaquer à l'État islamique?
Au moins qu'il y ait une concertation de tous ensemble. Voilà une solution. Les Européens, l'Union Européenne et tous les Arabes et l'Iran, etc. Mettez tous ensemble. Vous allez voir, vous allez réussir. Mais si vous prenez cela, vous êtes des chrétiens, que vous le vouliez ou non. Vous êtes des croisés, ne vous croisez. Même les meilleurs musulmans, les plus ouverts, ils ont dit, mais c'est des croisés. كلمة كان لدى الله
Le groupe État islamique a provoqué l'effroi chez les Damascènes, horrifiés par les scènes macabres qu'ils diffusent sur Internet. Les images des djihadistes saccageant les trésors archéologiques du musée de Mossoul en Irak sont aussi dans tous les esprits. Au musée national de Damas, un bâtiment construit par la France dans les années 30, nous rencontrons Mahamoun Abdulkarim, le directeur national des antiquités. Il a mis en place un plan d'urgence pour essayer de sauver les trésors de la civilisation syrienne qui n'ont pas été détruits ou pillés par les contrebandiers.
Donc là, on entre dans une tombe authentique qui date de quand ?
De l'époque romaine, elle vient de Palmyre, était transportée ici. Comme modèle d'une tombe, parce que nous avons beaucoup de tombes comme ça à Palmyre. Et nous avons transporté ça, ça fait depuis la construction du musée. Et comme vous voyez, c'est la tombe qui s'appelle Yerhaï. Vraiment, c'est une tombe très importante et très jolie. Vous voyez ça ? Je vous montre ça.
La Syrie va entrer dans sa cinquième année de crise, de guerre, de violence. Quel est le bilan que vous faites aujourd'hui ?
Franchement, le bilan est très dur. Si on parle sur la destruction des bâtiments et les sites archéologiques en Syrie en général, 750 presque bâtiments et sites archéologiques sont endommagés durant cette crise par la destruction des affrontements et aussi par la fouille clandestine. La ville d'Alep, c'est la ville la plus endommagée. C'est l'équivalent de l'ensemble de destruction dans toute la Syrie. 135 bâtiments historiques endommagés. Donc, vraiment, le bilan est dur dans cette ville.
Le gouvernement syrien veut reprendre Alep dans les prochains mois, parce que c'est quand même une ville importante pour la Syrie. Est-ce que vous craignez encore plus de destruction ?
Tant la guerre continue, la destruction continue dans ce pays. On demandait tout le temps à tout le monde respecter les sites archéologiques en Syrie. Le problème, ce n'est pas seulement les affrontements dans la ville d'Alep ou ailleurs. Depuis au moins 2 ans, on a reçu des rapports qui parlent sur l'entrée des groupes mafieux en Syrie. On a fait un appel international le mois juillet 2013. On a demandé la fermeture des frontières afin de bloquer le mouvement des mafieux. Malheureusement, personne ne nous a aidé. Comment on va fermer les frontières ? Donc, aujourd'hui, on parle sur une catastrophe nationale et internationale, parce que notre héritage, finalement, c'est un héritage mondial.
Quel type de pièces antiques et historiques partent, sont volées, et vers où, vers quelle destination ? Quels sont les chemins de la contrebande ?
Pour les musées nationaux dans le pays, nous avons pris des mesures très fermes. 99% des objets des musées sont dans sécurité, jusqu'à maintenant. C'est ça l'action que nous avons prise pour ne pas répéter l'expérience irakienne en 2003. Mais concernant les objets volés de Syrie, en général, ce sont des sites archéologiques, que ce soit dans la vallée de l'Euphrate, la région d'Alep, et aussi à Pamé, dans la région de Hama, et aussi la vallée Yarmouk à Daraa.
Et Palmyre ?
Dans le site de Palmyre, on a récupéré presque au-delà de 150 statues palmyriennes volées de sites durant cette année. Mais le problème le plus grave pour nous, c'est le site de Mari, que la mission française qui travaille. Franchement, il y a une destruction totale. Il y a des objets qui sont déjà partis vers la Turquie, vers l'Israël, vers la Jordanie, vers l'Irak, vers le Liban.
Et alors, où vont ces objets ? Parce que j'imagine qu'ils vont atterrir en Europe, aux États-Unis.
Les pays Golfe, Dubaï, Qatar, on est sûr, Chine, Suisse, et vers la France, vers l'Allemagne, vers l'Angleterre. On est sûr, même États-Unis. Je vous donne l'exemple. Un stèle assyrien, qui date presque 3000 ans, était volé, comme on dit, du site de Cheikh Hamad dans la région de Deir ez-Zor. Était présenté dans le Bonhams Center pour la vente des antiquités. C'était déjà présenté presque 900 000 euros.
C'était où ? Dans quelle ville ?
Bonhams Center, c'est Londres.
Tous les pays européens occidentaux qui avaient déclaré la guerre au régime de Bachar al-Assad, voulaient sa chute, ont coupé les liens, y compris dans l'archéologie.
Oui, dans le problème. En Europe, ils ne voulaient pas, comment dire, nous contacter tout simplement. C'était des contacts personnels entre les archéologues européens et moi-même. vu de relations personnelles qu'on partageait pendant des dizaines d'années, mais pas entre nos institutions, tout simplement parce que c'est une institution publique.
Et quand vous voyez les destructions qui ont eu lieu récemment au musée de Mossoul par les djihadistes qui ont cassé ces statues millénaires, vous vous dites, on est dans une guerre de civilisation ?
Bien sûr, c'est la catastrophe mondiale qu'on laisse des gens barbares attaquent notre civilisation aujourd'hui en Irak. Avant, c'était en Afghanistan, à Mali. Et à un moment donné, c'était en Syrie. Demain, on ne sait pas où. C'est un patrimoine mondial, finalement. Patrimoine pour tous les Syriens. On ne peut pas parler de patrimoine pour le gouvernement et un patrimoine pour l'opposition. Non, c'est un seul patrimoine. Si on sauve ce patrimoine, ça sera pour tous les Syriens. Si on perd, ça va être la perte pour tous les Syriens.
Damas, la vie entre deux obus. C'était un reportage de Christian Chesneau, prise de son Gilles Gallinaro. À ce reportage, il fallait bien sûr un contrepoint. Et ce contrepoint, c'est un acteur de l'action humanitaire qui va l'apporter pour nous. Mégo Terzian, vous présidez la branche française de Médecins Sans Frontières. On se souvient qu'en janvier dernier, 5 volontaires de MSF avaient été enlevés par Daesh. Ils ont été relâchés depuis. Mais aujourd'hui, comment travaillez-vous en Syrie ?
C'est très difficile, très dangereux, même dans le district de Damas. En dehors de la ville, il y a un district qui s'appelle Ghouta Orientale où plus que 100 000 personnes sont enclavées depuis plus que 2 ans maintenant. Et depuis août 2014, aucune aide avait été acheminée sur cette zone. Ils sont sous des bombardements quotidiens, encerclés par les forces loyalistes. Des civils qui ne sont pas épargnés par la violence. Ils n'ont rien à manger ou très peu à manger. Ils n'ont pas souvent à boire. Ils n'ont pas l'électricité. Et je peux citer plusieurs zones enclavées comme le Ghouta Oriental partout dans le pays. Après, en zone d'opposition, la situation est pour moi désastreuse. On a commencé à négocier activement à partir du mois d'août 2011 pour avoir l'accès officiel dans le pays. On ne l'a jamais obtenu et ils ne nous ont pas dit les raisons du refus. À partir de juin 2012, on a décidé de traverser les frontières par les pays limitrophes, d'une façon certes illégale, mais vu la situation catastrophique des populations qui vivaient dans les zones comme le nord de Alep ou le nord de Idlib, Arraqa, Derzor, donc ces 4 gouvernements notamment. Vu la situation, on a décidé de maintenir notre présence, illégale certes, mais pour nous légitime, parce qu'il fallait organiser des opérations de secours.
Quand vous dites on n'a pas d'explication sur le refus des autorités syriennes de nous accorder l'autorisation de travailler sur le terrain, ces explications, on peut les supposer, les deviner. Peut-être Damas n'est-il pas très pressé de voir des témoins sur le terrain. Il faut rappeler le bilan de ces 4 ans de guerre, 200 000 morts, dont sans doute l'énorme majorité due à l'action des forces gouvernementales.
C'est la vérité. Ils ne veulent pas avoir des témoins. Ils contrôlent le peu d'organisations présentes aujourd'hui à Damas, comme le mouvement Croissant Rouge et la Croix-Rouge internationale, comme les agences humanitaires des Nations Unies et 19 autres ONG internationaux qui sont officiellement présents dans le pays. Je sais qu'ils sont contrôlés par le système du régime. Les ONG n'ont pas la liberté de bouger où ils veulent, évaluer eux-mêmes les besoins et organiser le secours. Tout passe par le Croissant Rouge syrien qui, eux, suivent les consignes du gouvernement, comment distribuer l'aide, à qui distribuer l'aide. C'est ça la réalité. Et en zone donc, de l'opposition, l'aide est presque inexistante. Toute l'année 2014, il n'y a eu que 50 convois qui ont passé les lignes du front pour aller distribuer de l'aide zone de l'opposition, ce qui est très très peu. Il y a eu même 2 résolutions de l'ONU pour organiser des opérations de secours transfrontalières, mais même ce système d'aide ne marche pas très bien. Aujourd'hui, des millions de Syriens n'ont pas accès à l'assistance.
Avec tous les dangers aussi que cela suppose de travailler dans ces zones rebelles, on se souvient qu'en 2014, 5 de vos volontaires ont été kidnappés, ont été enlevés pendant plusieurs mois.
C'était le 2 janvier 2014 exactement, et c'était le groupe État islamique qui avait donc enlevé nos collègues. Après cette date, vers mi-février 2014, on a décidé de rapatrier tout le personnel expatrié de la Syrie. Du coup, aujourd'hui, on opère qu'à travers 200 personnes syriennes qui sont nos employés, qui continuent à travailler sur certaines zones dans le nord de Idlib et dans le nord de Alep. La guerre s'est intensifiée en 2014 et on observe qu'il n'y a pas de limite en termes de violence. Les populations civiles ne sont pas épargnées, voire souvent ils sont ciblés, ce qui était le cas récemment dans un village qui s'appelle Sarmin, où le directeur de l'hôpital nous a rapporté il y a quelques jours qu'en espace de quelques minutes, près de 70 patients sont arrivés dans la salle d'urgence de son petit hôpital avec des signes d'intoxication, avec irritation cutanée, avec détresse ou problèmes respiratoires.
Intoxication aux produits chimiques
En tout cas, un agent toxique, probablement le chlore, avait été utilisé. Et il nous a expliqué qu'ils ont vu la nuit des hélicoptères donc lâcher des barils. Et vite, ils ont senti l'odeur d'un désinfectant, on dirait. Même les patients qui sont arrivés ont senti sur leurs vêtements l'odeur du chlore. Et le médecin a notifié 6 décès, tous des civils sur les 70 patients.
Mais Gauterzian, l'ONU parle aujourd'hui de l'une des pires catastrophes humanitaires depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est un constat que vous partagez ?
Oui, je partage. C'est vraiment le désastre. Des Syriens qui perdent l'espoir, même notre personnel qui travaille jour et nuit déprimé. C'est très grave. Et Médecins sans frontières et les autres organisations internationales ne sont pas à la hauteur, malheureusement, de cette crise majeure qui, malheureusement, j'ai l'impression, va durer encore des mois et des années.
Merci, Mégo Terzian. Je rappelle que vous présidez la section française de Médecins sans frontières. Merci.
Merci à vous.
Interception était ce matin consacrée à la situation en Syrie avec ce reportage de Christian Chesneau et Gilles Gallinaro. Cette émission est réalisée par Anne Luro avec l'aide de Christine Kern et Stéphane Combe. Mixage Stéphane Touvenin. Je vous souhaite une excellente journée. Thank you.